Voilà, ça me fait plaisir de revenir parmi vous, de pouvoir apporter, partager la parole de Dieu avec vous. Je crois que là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Christ, il est au milieu de nous, on le croit par la foi et la bénédiction suit. Pour commencer, j'aimerais lire un passage dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Et puis j'aimerais lire à partir du verset 9, c'est un passage assez solennel. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors voilà un passage bien solennel. C'est vrai que lorsque nous les lisons de tels passages, nous sommes enclins un peu à trembler. Mais il faut bien savoir que de tels passages sont donnés pour notre bien et pour notre édification et parce que Dieu nous aime. Donc il y a un fondement, c'est Christ. Ce fondement est suffisant pour n'importe quel pécheur, même le plus grand des pécheurs. Et ce fondement, il est aussi suffisant pour ma vie de chrétien, du début à la fin. Et maintenant, je dois bâtir sur ce fondement. Et la Bible me dit que je dois faire attention quant à la manière dont je bâtis au-dessus de ce fondement. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des pierres précieuses, il y a du foin, de la chaume, des choses consumables et périssables. Donc ce matin, j'aimerais regarder avec vous à quelqu'un qui a bâti sur ce fondement d'une manière sage. Il a utilisé de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est Moïse. Et j'aimerais regarder avec vous à ce que la parole de Dieu dit de Moïse selon l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, les versets 23 à 29. Hébreux 11, les versets 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Alors, mes amis, la vie, et particulièrement la vie chrétienne, est faite de décisions. Certaines des décisions que nous devons prendre sont simples, d'autres sont beaucoup plus complexes. Certaines de ces décisions se prennent presque instinctivement, sans beaucoup de réflexion, alors que d'autres nécessitent beaucoup de prière, de réflexion et de méditation. Certaines décisions sont prises par défaut. Lorsque nous refusons de prendre une décision, pour finir, une décision est prise pour nous. Mais c'est quand même notre décision, parce que nous avons décidé de ne rien décider. Et nous devons nous souvenir que la qualité de notre vie est bien davantage déterminée par les décisions que nous prenons que par simplement les circonstances incontrôlables qui nous entourent. Dans une très grande mesure, mes amis, votre prospérité spirituelle dépendra des choix, de vos choix pour votre vie. Et vous pouvez évaluer la maturité de quelqu'un, la maturité spirituelle de quelqu'un par les choix que cette personne fait. La sainteté, la sanctification, c'est prendre les bonnes décisions devant Dieu. La sensualité, c'est prendre les mauvaises décisions. Lorsque Satan vient et qu'il me tente, je peux choisir de dire oui ou non à la tentation. Si je choisis de dire oui à la tentation et de nourrir mon péché et de le cajoler, je deviendrai l'esclave de ma sensualité et ça aura des effets dévastateurs pour ma vie. Si par contre je décide de me tourner vers Dieu pour trouver en lui la force dont j'ai besoin pour résister à la tentation, eh bien je vivrai par l'Esprit, je deviendrai, me dit la Bible, l'esclave du Christ. Et quel esclavage béni, mes amis. Lorsque j'ai l'occasion de parler de mon Sauveur à quelqu'un, j'ai le choix de profiter de cette occasion ou de la laisser filer. J'ai le choix de prendre chaque jour du temps avec mon Seigneur dans la prière et dans la lecture de sa parole ou de négliger ces choses. Ce n'est pas une question de trouver le temps. C'est une question de choisir de prendre le temps avec lui. Et ce choix implique bien sûr une décision. Dans le monde professionnel, dans le monde des affaires, je fais aussi constamment face à des choix. Soit je choisis de vivre selon le monde avec les règles du monde et la morale du monde pour améliorer un peu le rendement et le chiffre d'affaires. Ou alors je choisis de vivre selon les principes de mon Seigneur, quitte à devoir souffrir à cause de cela. Et dès les temps les plus anciens, mes amis, le monde a été confronté, l'humanité a été confrontée à des choix. Le tout premier homme a été confronté à un choix important et il a mal choisi. Et nous souffrons toujours des conséquences de ce choix. Alors bien sûr que Adam était dans une situation différente de la nôtre, il avait une nature sainte, donc il pouvait faire le bon choix. Nous ne pouvons même plus le faire parce que nous sommes esclaves de notre péché. Quoi qu'il en soit, l'humanité a toujours été confrontée à des choix. Dans le désert, Moïse a dit à Israël, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Josué a fait exactement la même chose plus tard. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Élie, de nouveau, a fait la même chose. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Abel a choisi d'adorer Dieu de la bonne manière, selon les instructions de Dieu. Il a offert le bon sacrifice et il a été béni. Caïn, lui, il a choisi d'adorer Dieu à sa manière, à la manière des hommes, selon sa propre petite recette. Il a été rejeté, il a été maudit. Enoch a choisi de marcher avec Dieu pendant 300 ans. Alors que le reste du monde marchait selon ses passions. Et Dieu l'a pris et emmené directement dans les cieux. Noé et sa famille ont choisi la voie de Dieu aussi et lui ont obéi. Ils ont construit l'arche. Ils ont été sauvés. Tout le reste du monde a péri dans le déluge. Abraham aussi a choisi la voie de Dieu. Il a persévéré par la foi, envers et contre tout. Il a continué de s'accrocher par la foi à son Dieu. Et il a été béni. Le Fils de la promesse est venu. Alors, les bons choix, mes amis, sont faits sur la base d'une foi juste, d'une foi saine. C'est cette foi qui connaît la volonté de Dieu et qui se tourne vers Dieu pour trouver en lui la force d'accomplir ce qui est juste devant notre Seigneur. Bien souvent, mes amis, on ne peut pas savoir ou en comprendre pleinement toutes les conséquences que nos choix vont impliquer pour notre vie. Mais les conséquences, c'est l'affaire de Dieu. Notre tâche, c'est de faire ce qu'on sait être juste devant lui. Les résultats, c'est la responsabilité de Dieu, mes amis. On peut ne pas toujours comprendre la volonté de Dieu, mais lorsque cette volonté est pleinement révélée par sa parole, par la foi, on y obéit. Alors Moïse est vraiment l'exemple de la personne qui a pris ses décisions par la foi. Je crois que personne d'autre dans la Bible, à part bien sûr le Seigneur Jésus-Christ, n'illustre mieux la puissance de bonnes décisions pour la vie d'un homme. Et c'est vraiment l'exemple que nous avons ici avec Moïse. Les décisions de Moïse étaient justes parce que sa foi était juste. Et sa foi montre que dans la vie, il y a des choses à accepter et des choses à rejeter. Et c'est constamment les choix que nous avons. Il y a des choses auxquelles nous devons dire oui, et il y a des choses pour lesquelles nous devons dire non. Alors le titre de ce message, c'est Moïse ou les décisions de la foi. Alors le premier point est celui-ci. La foi accepte le plan de Dieu. Et nous lisons verset 23, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » Donc ici, il s'agit davantage de la foi des parents de Moïse, d'Amram et de Jochébed. Et c'est par la foi, nous dit l'apôtre, qu'ils ont désobéi à l'édit royal. Alors vous savez, vous connaissez le contexte de la situation. Le peuple hébreu se multiplie en Égypte à tel point que les Égyptiens craignent maintenant pour leur sécurité. Et pour en quelque sorte juguler cette croissance, le roi Pharaon donne un ordre inique. Il faut que tous les mâles, les bébés mâles des Hébreux soient noyés. Et Amram et Jochébed choisissent de désobéir à ce décret royal. Et pendant 3 mois, ils vont cacher Moïse. Et lorsqu'il ne sera plus possible de le cacher, ils vont le placer dans une corbeille étanche et le laisser dériver sur l'eau. Alors il fallait beaucoup de foi de la part des parents de Moïse pour mettre ce petit bébé dans cette corbeille et laisser cette corbeille dériver là où la princesse égyptienne avait l'habitude de venir se baigner. Il fallait aussi beaucoup de foi pour espérer que cette princesse allait avoir compassion de ce bébé et allait épargner sa vie. D'une perspective purement humaine, les parents de Moïse n'avaient aucune garantie que Moïse n'allait pas peut-être être séparé à jamais de son peuple et qu'il n'allait pas devenir un Égyptien à part entière. Mais ils ont dû faire confiance à Dieu. Et Dieu a honoré leur foi. Alors nous savons ce qui s'est passé. La princesse égyptienne a eu compassion de l'enfant. Myriam est allée la trouver. Elle a proposé de trouver une nourrice pour cet enfant. Elle a pris Moïse. Elle l'a directement amené à sa mère. Et c'est sa mère qui a eu ce privilège de pouvoir ainsi inculquer à Moïse, dès l'âge les plus jeunes, cette foi qui allait caractériser sa vie. Elle lui a appris l'existence de Dieu. Elle lui a aussi appris cet espoir messianique d'un grand libérateur qui allait venir. Et cette foi ensuite a caractérisé toute la vie de Moïse. Alors, bien sûr que la vision d'Abraham et de Jochébed était très imparfaite. Il ne pouvait pas comprendre tout le plan de Dieu. Pourquoi était-il nécessaire d'en arriver à une telle extrémité? Pourquoi fallait-il prendre ce risque inouï de mettre leur bébé dans cette corbeille et laisser cette corbeille dériver sur le Nil, en espérant que cette princesse allait avoir compassion de lui? Mais ils n'avaient pas d'autre issue, pas d'autre choix. Et par la foi, ils ont cru que Dieu avait un plan dans tout cela. Alors bien sûr, nous qui avons toute l'histoire, on comprend ce que Dieu a fait. Mais Abraham et Jochébed n'avaient aucun moyen de savoir cela. Ils ont simplement cru, ils ont simplement fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas essayé de fléchir le bras de Dieu dans une direction ou dans une autre. Ils n'ont pas essayé d'améliorer le plan de Dieu avec leur propre sagesse. Parce que ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire, mes amis. C'est Dieu qui fait les plans. C'est nous qui devons y obéir. Dieu n'a pas besoin de notre sagesse, il n'a pas besoin de nos conseils, il a simplement besoin que nous obéissions à sa volonté. Donc c'est le premier point, la foi accepte le plan de Dieu. Deuxième point, la foi rejette le prestige du monde. Nous lisons verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors pendant 40 ans, Moïse a été un prince en Égypte. Et vous savez que l'Égypte était bien sûr le pays le plus riche, le plus cultivé, le plus avancé dans toute la science humaine. Donc Moïse a reçu une éducation extrêmement poussée, que beaucoup auraient d'ailleurs voulu recevoir. Étienne, dans son dernier sermon avant sa mort, dit ceci de Moïse. Qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Alors, lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, Moïse s'est trouvé devant un choix crucial. Ce choix était le suivant. Soit il décidait de rester en Égypte et de devenir un Égyptien à part entière, avec tous les avantages que cela représentait, ou alors il s'identifiait avec son peuple, avec toutes les conséquences que cela impliquait. Et quel a été, mes amis, le facteur décisif pour que Moïse fasse le bon choix? C'était sa foi. Il dit à l'apôtre, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez que dans ce monde, la renommée apporte toujours un certain prestige, un certain honneur. Si vous êtes né dans une famille connue, eh bien, le monde pensera de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ben, naturellement, les faveurs du monde seront avec vous. Ou si vous avez eu beaucoup de titres, de diplômes, beaucoup d'études, eh bien, le monde pensera que vous êtes quelqu'un qui est vraiment arrivé dans la vie. Eh bien, Moïse a eu toutes ces choses, mes amis. Mais il a choisi de les abandonner toutes. Alors bien sûr que d'un point de vue purement du monde, il sacrifiait tout pour rien. Mais d'un point de vue spirituel, il sacrifiait rien pour tout. Et Moïse a choisi d'abandonner le prestige de ce monde et l'honneur de ce monde et la puissance de ce monde. Car il nous a dit au verset 26, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour Moïse, les choses de ce monde ne pouvaient même pas être comparées avec les choses à venir. Comme Jésus le dira plus tard, Moïse n'a pas essayé d'amasser pour lui-même des pierres, des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mes amis, les choses que ce monde considère comme importantes ou grandes ne le sont pas aux yeux de Dieu. Et ce qui impressionne le monde n'impressionne pas Dieu. Encore une fois, le monde évalue une personne selon sa richesse, selon ses titres, selon son honneur, sa renommée, etc. Mais Dieu ne juge pas du tout de cette manière. Jésus a parlé d'un homme, d'un grand homme, d'un homme qui était plus grand que tous les pharaons, d'un homme qui était encore plus grand que Noé, Abraham, Moïse, David et Élie. D'un homme qui était plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et la naissance de cet homme a été même annoncée par un ange qui a dit à son père, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et qu'a dit Jésus de cet homme? Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste était né dans une famille toute simple. Son père était prêtre, mais il était loin d'avoir une position de prestige, d'influence dans le monde. Et Jean a passé le plus clair de sa vie dans le désert, dans les circonstances les plus humbles. Il se nourrissait de sauterelles, était revêtu d'un vêtement de poils de chameau avec une ceinture. Il n'y avait rien en lui qui aurait pu vraiment le qualifier pour ce titre de grand selon le concept du monde. Et pourtant, aux yeux de Dieu, il était le plus grand parce que dès le départ, sa vie a été marquée par la puissance du Saint-Esprit. Et parce que Jean-Baptiste a donné toute sa vie à son Sauveur et qu'il a, il a pratiqué ce renoncement de soi, il a été infiniment béni par Dieu. Il y a eu un baron Hollande qui s'appelait Justin van Veldt, un homme qui, selon le monde, bien sûr, avait une position. Il a choisi de tout abandonner pour partir comme missionnaire dans la Guyane hollandaise. Et aujourd'hui, personne pratiquement ne se souvient de son nom. Et tout ce qu'il reste de lui, c'est une tombe oubliée là-bas, à l'autre bout du monde. Et pourtant, mes amis, on peut être sûr qu'il n'est pas oublié de Dieu. Et ce que cet homme a écrit avant son départ est vraiment très intéressant. Il dit ceci, « À quoi cela me sert-il d'être de naissance noble lorsque je suis né de nouveau en Christ ?» À quoi cela me sert-il d'avoir le titre de Seigneur lorsque je suis le serviteur du Christ? À quoi cela me sert-il d'être appelé votre grâce lorsque j'ai besoin de la grâce de Dieu? Je rejette toutes ces vanités et je me tiens aux pieds de mon Seigneur et Sauveur, Jésus. Troisièmement, la foi rejette les plaisirs du monde. Regardez au verset 25 et 26. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, je crois que personne n'a besoin d'être convaincu que parfois le péché peut sembler très attirant et très amusant. Le péché peut satisfaire notre orgueil, il peut aussi, pour un temps, semble-t-il, satisfaire à nos passions charnelles, etc. Mais le péché a toujours deux caractéristiques, toujours. Il est toujours mauvais et le plaisir qu'il procure est toujours éphémère. Et même le plaisir que le péché semble nous donner à prime abord, ce plaisir est toujours trompeur et toujours illusoire. Le péché ne contient aucun bien et il ne peut nous faire aucun bien. Et tout le bien qu'il semble nous faire au départ n'est qu'un bien apparent. C'est une tromperie, une déception. Et bien sûr que certains hommes ont appris cette leçon au prix fort. L'un d'entre eux, c'était un homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Et pour avoir le plaisir d'avoir Bathsheba dans son lit pour une nuit, il a commis un adultère. Et pour cacher ce péché, il a dû ensuite tuer l'époux de Bathsheba, Uriah. Et toute sa vie, mes amis, toute sa vie, ce péché restait devant les yeux du roi David, même s'il a été pardonné. Et il dira au psaume 51, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et en effet, ce péché a été constamment devant les yeux du roi David. Cet enfant qui était né du fruit de cet adultère est mort après 8 jours, malgré toute l'intercession, toute l'agonie spirituelle du roi David. Et ensuite, l'épée ne s'est plus jamais éloignée de la maison du roi. Et David a vu plusieurs de ses fils mourir d'une façon ignoble à cause de leur méchanceté. Oui, le plaisir du péché dans le cas de David a été très court. Bon, mais les conséquences, mes amis, les conséquences ont duré pour le reste de sa vie. Alors, Moïse savait dès le départ que Dieu voulait qu'il soit le libérateur de son peuple. Comment le savons-nous? Ben, c'est encore une fois Étienne qui nous le dit dans son dernier discours. Il dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Alors, Moïse a dû faire face à un choix. L'obéissance ou la désobéissance? Et bien sûr que la désobéissance avait bien des attractions. En Égypte, il avait la meilleure des nourritures. Le meilleur, bien sûr, des logements. Et le meilleur des loisirs. Il avait vraiment le meilleur de tout ce que ce monde pouvait offrir. Et ces choses en elles-mêmes n'étaient pas nécessairement un péché. Mais elles seraient devenues un péché pour Moïse s'il avait choisi de rester là-bas. Donc Moïse choisit la bonne chose. Nous lisons verset 25, « Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Et c'était un acte de foi, mes amis. Il pensait, Moïse, que s'il choisissait la voie de Dieu, il serait infiniment plus riche que s'il restait dans la voie du monde. Et par la foi, il estima que l'opprobre du Christ était une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Mes amis, vous êtes aussi appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Pierre écrit dans sa première épître, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alors l'obéissance, c'est vrai, n'est jamais facile, mes amis. Et la vie chrétienne est un combat, on le sait tous. Ce n'est pas toujours facile de faire les bons choix. C'est des fois même très difficile. Et nous avons besoin de nous accrocher à notre Sauveur pour y arriver. Mais souvenez-vous, mes amis, que la voie du péché, la voie du monde, sera toujours infiniment plus dure, infiniment plus douloureuse. Et la voie de Dieu n'est pas simplement pour l'honneur de Dieu et pour la gloire de Dieu, mais elle est aussi pour notre propre bien. La voie de Satan, c'est toujours pour notre ruine. Quatrièmement, la foi rejette la pression du monde. Regardez ce que dit l'apôtre au verset 27. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Alors deux fois, Moïse a dû quitter l'Égypte. La première fois, il a dû la quitter parce qu'il avait tué un Égyptien. Et il savait que le Pharaon voulait sa mort à cause de cela. La deuxième fois, il a quitté l'Égypte alors que le Pharaon, dans son cœur, ne voulait pas laisser finalement partir les enfants d'Israël. Dans les deux cas, Moïse savait qu'il était en difficulté. Et dans les deux cas, Moïse a trouvé la force de faire le bon choix. Alors mes amis, je crois que l'une des plus grandes tentations à laquelle Moïse a dû faire face dans sa vie a été la peur. Je le crois sincèrement. Et la peur est l'une de ces émotions humaines que nous connaissons tous. Et je crois que la peur est l'une des armes favorites de Satan pour essayer de nous dissuader de faire ce qui est juste devant Dieu. Nous sommes effrayés d'être différents du monde ou de perdre notre travail ou notre réputation ou notre respectabilité. Nous avons peur de la critique, même si elle vient peut-être de personnes que nous n'apprécions pas particulièrement. On peut si facilement être paralysé dans notre foi par la peur. Et nous n'avons qu'à regarder à la parole de Dieu pour voir ce que la peur a fait dans la vie de certains hommes. Pensez à Abraham. Deux fois, à cause de la peur, il va mentir au sujet de sa femme. Et cela va avoir des conséquences, aurait pu avoir des conséquences, disons comme cela, tragiques pour lui et son épouse. Il ment à Pharaon, il ment aussi à un roi philistin. Pensez par exemple à Aaron. Moïse est sur la montagne, il s'attarde, le peuple s'impatiente, et pour finir, Aaron cède à la peur. Il fait ce veau d'or avec toutes les conséquences que cela a eues pour le peuple. Pensez aussi à ces espions que Moïse a envoyés dans la terre promise. 10 ont donné un mauvais rapport sur 12. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur de la taille de ces gens, de ces géants qui habitaient ce pays. L'armée de Gédéon aussi a eu peur et le résultat fut que 22 000 hommes ont été renvoyés à la maison. Les disciples aussi ont eu peur de la tempête et Jésus les a repris pour leur petite foi. Et Pierre, bien sûr, a eu peur. Il a eu peur de la critique, il a eu peur de l'arrestation, il a eu peur de la mort. Et il a renié son Seigneur et son Sauveur. Et la peur peut si facilement, mes amis, nous paralyser. Mais Moïse, mes amis, n'a pas laissé la peur paralyser sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas la peur. Je pense qu'il connaissait la peur. Peut-être même plus qu'aucun d'entre nous, mes amis. Et certainement qu'il avait peur de Pharaon. Mais il avait une personne qu'il craignait plus que le Pharaon. C'était le Seigneur Tout-Puissant. Et parce qu'il craignait Dieu plus que n'importe qui ou n'importe quoi, dans ce monde, il a pu lui rester fidèle. Et c'est la seule façon, mes amis, que nous avons pour vaincre la peur ici-bas. Il faut que notre Seigneur et notre Dieu deviennent à nos yeux plus grands, plus beaux, plus puissants, plus glorieux que n'importe qui d'autre ici-bas. Et c'est seulement en maintenant avec lui une communion vivante, journalière, c'est seulement en le contemplant par la foi au travers des pages de la Bible que nous aurons cette foi qui bouleverse les montagnes et qui surmonte la crainte et la peur. Qu'a dit Jésus ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cinquièmement, la foi accepte les dispositions de Dieu. Verset 28. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Alors vous connaissez la 10e plaie que Dieu a fait tomber sur l'Égypte. C'est la mort de tous les premiers-nés. Et afin de protéger les premiers-nés parmi le peuple des Hébreux, la Pâque est instaurée. Il y a un agneau par famille, un agneau qu'il faut sacrifier. Et avec le sang de cet agneau, on va peindre le linteau de la porte. Alors bien sûr que ce sang en lui-même n'était qu'une matière organique. Ce sang en lui-même n'avait aucune puissance pour retenir la main de l'exterminateur, de l'ange de la mort. Mais c'était le moyen que Dieu avait donné pour être protégé de ce fléau. Et les Israélites ont obéi, ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de faire, et ainsi les premiers-nés ont été épargnés. Alors bien sûr que nous comprenons tout le symbolisme de la Pâque. On comprend que ce sang représente le sang de Christ. Et on sait que ce sang nous libère, bien sûr, des conséquences de notre péché. Nous n'avons plus à craindre la colère de Dieu et la justice de Dieu. Nous sommes libérés de toutes ces choses. Mais Moïse et le peuple n'avaient aucun moyen de comprendre ces choses. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était obéir, même s'ils ne comprenaient pas tout le symbolisme. Et ils ont obéi, mes amis. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, de la même manière, Dieu nous a donné certaines choses que nous pouvons faire pour fortifier notre foi. Les puritains appelaient ces choses les moyens de la grâce. Et vous savez quelles sont ces choses. C'est tout simplement nous exposer à la parole de Dieu, c'est prendre ce temps seul à seul avec mon Sauveur, lire dans sa parole, voir dans sa parole sa gloire, sa beauté, sa puissance, ses promesses, prendre du temps avec lui dans la communion, dans la prière, prendre du temps les uns avec les autres, parce qu'on ne peut pas prospérer, mes amis, en tant que chrétien dans l'isolation, c'est impossible. Et si nous faisons ces choses par la foi, nous allons être bénis et nous allons progresser. Que se passe-t-il, mes amis, si vous choisissez de sauter un culte un dimanche? Pas grand-chose, oui, pas grande différence. Mais si vous choisissez de sauter un deuxième dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Toujours pas grand-chose, vous aurez peut-être des petits pincements de cœur, votre conscience peut-être va un petit peu vous chicaner, mais sans plus. Mais si vous continuez de faire cela, semaine après semaine, c'est là que vous allez voir la différence. Vous perdrez la joie de votre salut. La joie chrétienne ne sera plus là dans votre vie. Le désir de servir Christ deviendra secondaire. Et dans l'épreuve, eh bien, vous perdrez beaucoup du réconfort et de l'assurance et de la paix que le chrétien peut recevoir de Christ. Que faisaient ces premiers chrétiens? Il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ça, mes amis, la disposition de Dieu. C'est ça le chemin de Dieu et c'est le chemin que nous devons suivre. Et finalement, mes amis, finalement, la foi accepte les promesses de Dieu. Le verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Alors lorsque Moïse et les Israélites atteignirent la mer Rouge, l'armée de Pharaon n'était pas très loin derrière. Et humainement parlant, ils étaient qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La mer devant, l'armée derrière. Et dans une première réaction, le peuple s'est plaint et a murmuré. Il a dit à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Mais Moïse va leur parler. Et il va les encourager. Il leur dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors, c'est ce que les Israélites ont fait. Ils ont cru. Et c'est par la foi qu'il nous est dit qu'ils traversèrent la mer Rouge comme en un lieu sec. Il fallait beaucoup de foi pour faire cela. Parce que le texte nous dit que la mer était comme deux murs de chaque côté. Et si les eaux étaient revenues à leur place un peu trop tôt, c'était les Israélites qui étaient engloutis et pas les Égyptiens. Quelle garantie les Israélites avaient-ils que Dieu n'allait pas peut-être tout d'un coup changer d'avis et que les eaux n'allaient pas se refermer plus tôt? Et c'était la foi. Ils savaient que leur Dieu et leur Sauveur ne pouvaient pas mentir. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont marché et puis ils ont été sauvés. Et c'est ça, mes amis, la foi victorieuse, la foi qui triomphe. Vous serez parfois confrontés à votre vie, à des circonstances telles que tout ce qu'il vous restera sera simplement les promesses de l'Évangile, mes amis. Et vous verrez que lorsque vous allez marcher avec votre Seigneur, vous irez de progrès en progrès spirituellement, mais vous verrez que les épreuves de votre foi deviendront aussi de plus en plus grandes, de plus en plus difficiles. Et il y aura des jours, des moments dans votre vie où vous serez seul, seul avec les promesses de l'Évangile et votre difficulté, votre maladie, votre tentation, votre deuil ou je ne sais quoi d'autre. Et mes amis, souvenez-vous bien que la délivrance divine n'est jamais aussi proche que lorsque nous sommes plus que seuls, seuls avec notre Dieu, seuls avec ses promesses. Et c'est là que Dieu souvent se plaît à glorifier son nom en envoyant une délivrance miraculeuse, comme ce fut le cas pour les Israélites. Amen.